Bienvenue à chacune, à chacun, pour ce culte à l'Église évangélique de Mérin. Dieu vous aime et se réjouit de votre présence ici ce matin, qu'il vous remplisse de sa paix. Comme chaque dimanche, cet été, nous partageons nos cultes entre l'EEM et le CEPOM, le Centre œcuménique protestant de Mérin. Nous souhaitons la cordiale bienvenue à nos amis protestants dans nos locaux. Et nous accueillons également aujourd'hui, pour nous donner un message, Agnès Cruzelli, qui officie comme pasteur dans la paroisse du Mandement. Bienvenue Agnès. Un chrétien est un libre seigneur sur tout et n'est soumis à personne. Un chrétien est un esclave asservi en tout et est soumis à tous. Citation de Martin Luther. Le protestantisme a intégré la notion de cette liberté de conscience. Il n'y a plus de médiateur entre les hommes et Dieu. Le protestantisme a supprimé les intermédiaires, rendant ainsi sa place à la liberté humaine dans son rapport à Dieu. Notre conscience est libre devant Dieu parce que, dans son grand amour pour les hommes, il les justifie par la foi. C'est pour cette raison que nous sommes des hommes et des femmes libres. Romains 6, verset 18. Affranchis du péché, vous êtes devenus esclaves de la justice. On voit que l'on est libre et esclave à la fois. Je citerai un exemple. Lorsque nous tenions un stand biblique en ville, nous sommes libres d'annoncer la bonne nouvelle. Mais nous avons de plus en plus de restrictions imposées par nos autorités. Exemple, ne pas offrir de boissons aux passants, c'est une façon malhonnête de les harponner. Ne pas leur distribuer de la littérature en dehors du stand, ils doivent venir se servir eux-mêmes. Nous sommes constamment confrontés à la liberté d'annoncer l'Évangile, assujettis à des impératifs légaux que nous devons respecter. La liberté chrétienne n'est pas un droit à faire ce que l'on veut, mais une liberté pour servir Dieu et son prochain, guidée par l'amour et la compassion. Je prie. Oui, Seigneur Jésus, nous savons que nous sommes libres, nous avons accès vers toi librement pour parler, pour t'écouter. Nous voulons ce matin encore ensemble, Seigneur, t'écouter, te louer, te dire merci pour tout ce que tu as fait pour nous. Nous nous remettons à toi pour ce culte, sachant que toi, tu es là à nos côtés et tu vas nous aider à diriger toutes nos activités. Amen.
Amen. Et j'aimerais vous inviter à vous lever si vous le pouvez pour passer un moment de louange. On va chanter ce matin Dieu Sauveur, Yeshua, donc Jésus, un nom qui veut dire Dieu sauve. Et on aimerait vraiment le mettre au centre de notre adoration, au centre de notre louange, de notre vie, en chantant que nos voix qui s'unissent à celles des anges déclarent « Tu es le Dieu sauveur, notre Dieu seul sauveur, nous sommes à lui, nous cherchons son cœur et c'est lui que nous désirons. » Alors proclamons-le ce matin que Dieu est un Dieu qui sauve.
Miséricordieux, grâce incomparable, amour véritable, je t'exalte, tu es Yeshua, Dieu sauveur. Précieux Fils unique, beauté sans pareille, sagesse insondable, je t'exalte, tu es Yeshua, Dieu sauveur. Nos voix unies à celles des anges déclarent tu es le Dieu sauveur, notre Dieu seul sauveur. Ô temple unis à tous les anges déclarent tu es le Dieu sauveur, notre Dieu seul. Héros triomphant, puissance absolue, je t'exalte, tu es Yeshua, Dieu sauveur.
Nos voix.
Je suis à toi, mon cœur ne bat que si tu vis en moi. Je suis à toi. Je suis à toi, mon cœur ne bat que si tu vis en moi. Je suis à toi.
Proclamons-le.
Oh, je suis à toi. Mon cœur ne bat que si tu vis en moi. Je suis à toi.
Encore une fois.
Oh, je suis à toi. Mon cœur ne bat que si tu vis en moi. Je suis à toi.
Nos voix.
Oh, nos voix unies à celles des anges déclare tu es le Dieu sauveur, notre Dieu seul sauveur. Unis à tous les anges, déclare tu es le Dieu sauveur, notre Dieu seul sauveur.
Seigneur, c'est ton cœur. C'est ton cœur que nous recherchons. Nous voulons mieux te connaître pour apprendre à mieux t'aimer, pour apprendre à mieux aimer les autres. Viens toucher nos vies, viens remplir nos cœurs. Descends sur nous, Esprit Saint. Ton cœur que je recherche. On prend cœur à cœur le chant suivant, Raymond.
C'est ton cœur que je recherche. Dès que le soleil se lève, je connais ta douce voix. Mon cœur ne brûle que pour toi. C'est toi seul que je désire. Même quand mes pensées chavirent, je connais ta douce voix. Jésus, tu m'attires à toi. Pour un cœur à cœur avec toi, Seigneur, le reste perd en importance quand je suis là dans ta présence, face à face, devant ta grâce. Le reste perd en importance quand je suis là dans ta présence. Tes bras, je me repose. Tous mes fardeaux, je les dépose. Je connais ta douce voix. Jésus, je ne veux que toi. Pour un cœur à cœur avec toi, Seigneur, le reste perd en importance quand je suis là dans ta présence, face à face, devant ta grâce. Le reste perd en importance quand je suis là dans ta présence. Je plie le genou, j'abandonne tout. Le seul désir de mon cœur, c'est ton cœur. Je plie le genou, j'abandonne tout. Le seul désir de mon cœur, c'est ton cœur. Encore une fois, je plie le genou. Je plie le genou, j'abandonne tout. Le seul désir de mon cœur, c'est ton cœur. Pour un cœur, pour un cœur à cœur avec toi, Seigneur, le reste perd en importance quand je suis là dans ta présence, face à face, devant ta grâce. Le reste perd en importance quand je suis là dans ta présence. Je suis là dans ta présence.
Père, nous n'avons qu'un désir. Être avec toi, être dans ta présence jusqu'à la fin de nos jours, Seigneur. Viens nous remplir de ton esprit, de ton amour, pour que nous soyons tes envoyés sur toute la planète, avec nos voisins et jusqu'aux extrémités du monde. Ranime en nous ce feu qui brûle pour toi, Seigneur. Nous qui sommes dépassés par les événements, nous qui sommes aveuglés par notre propre vie, viens ranimer ce feu pour toi qui brûle en nous, Seigneur.
Père, je n'ai qu'un désir. être près de toi et sentir tes bras. Père, tu as envoyé ton Fils bien-aimé pour quiconque croit. Saint-Esprit qui donne vie, anime en moi ce feu pour toi. Saint-Esprit, viens par ta pluie, rafraîchis-moi et envoie un souffle nouveau. Souffle nouveau, un souffle nouveau, un souffle nouveau. Père, je n'ai qu'un désir, être près de toi et sentir tes bras. Père, tu as envoyé ton Fils bien-aimé pour quiconque croit. Saint-Esprit qui donne vie, ta pluie, rafraîchis-moi et envoie un souffle nouveau, un souffle nouveau, un souffle nouveau.
Ce souffle nouveau et nous guider par, dans ce culte à nous rendre réceptifs à ta parole, à ton esprit, Seigneur. Amen.
Bonjour à tous. On voit que c'est vraiment les vacances, hein? C'est un peu vide là-devant. Je suis censée envoyer les enfants avec Pauline pour un petit moment, mais je crois que des enfants en âge d'école du dimanche, il n'y en a pas. À moins que tu veuilles sortir avec les plus petits. Il y en a quand même derrière. Ah, parfait. Alors voilà, on va encore juste prier pour eux avant qu'ils partent. Merci Seigneur parce que tu nous donnes ces enfants. On te les remet, tu vois qu'ils sont peu nombreux, on te les remet pour ce moment de détente pendant qu'on continue notre culte et on te demande de les bénir ainsi que Pauline qui va s'en occuper. Amen.
Prier avant le message. Oui, Seigneur, nous avons chanté que tu étais là parmi nous. Et nous voulons maintenant recevoir de ta part un message par les lèvres d'Agnès. Nous sommes reconnaissants de pouvoir t'écouter. Ouvre nos oreilles, Seigneur, pour écouter ta parole, cette parole que tu veux nous laisser dans notre cœur. Amen.
La lecture de ce matin est au livre de la Genèse, au chapitre 1, les versets 26 à 31. Dieu dit : Faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il soumette les poissons de la mer, les oiseaux du ciel, les bestiaux, toute la terre et toutes les petites bêtes qui remuent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image. À l'image de Dieu, il le créa. Mâle et femelle, il les créa. Dieu les bénit et Dieu leur dit : Soyez féconds et prolifiques, remplissez la terre et dominez-la. Soumettez les poissons de la mer, les oiseaux du ciel et toute bête qui remue sur la terre. Dieu dit : Voici, je vous donne toute herbe qui porte sa semence sur toute la surface de la terre, et tout arbre dont le fruit porte sa semence. Ce sera votre nourriture. À toute bête de la terre, à tout oiseau du ciel, à tout ce qui remue sur la terre et qui a souffle de vie, je donne pour nourriture toute herbe mûrissante. Il en fut ainsi. Dieu vit tout ce qu'il avait fait. Voilà, c'était très bon. Il y eut un soir, il y eut un matin, sixième jour. Alors cet été, vous le savez, nous cheminons avec le thème de la liberté. Et c'est un vaste programme. On peut trouver beaucoup de textes qui peuvent nous inspirer ou nous interroger, ou les deux, si tout se passe bien. Aujourd'hui, nous avons entendu le texte de la Genèse. Et quand nous avons décidé du thème de l'été, nous avons donné des titres à nos dimanches. Le titre pour aujourd'hui est « Créer libre à l'image de Dieu ». Vous aurez remarqué que le mot « libre » n'est pas dans le texte. Mais alors, pourquoi l'avoir ajouté ? Parce que ça faisait beau dans notre thématique ? Pour que je n'oublie surtout pas de parler de liberté, parce que j'ai tendance à tout noter, j'oublie un peu, beaucoup, ce que je note pas. Non, en ajoutant « libre » dans le titre, je donne déjà une clé de lecture de ce que ça veut dire d'être créé à l'image de Dieu. J'ai par conséquent vendu la mèche. Mais on peut néanmoins se poser les deux questions suivantes. Pourquoi sommes-nous libres ? Et quelle est notre responsabilité découlant de cette liberté ? Alors, qu'est-ce que ça veut dire d'être libre ? Que l'humain est créé à l'image de Dieu ? Je trouve déjà amusant ce début, parce que l'humain est créé à l'image de Dieu, alors que dans le Premier Testament, il est interdit de faire des images de Dieu. Alors, peut-être que ça veut dire que la vérité ultime nous échappe. Elle échappe à notre regard. Elle est en Dieu. Le décor est planté, je pourrais m'arrêter là. Vu que la vérité m'échappe, je ne vais pas me poser plus de questions. Non. Les premiers chapitres de la Genèse parlent de l'histoire de toute l'humanité. Elle englobe toutes les religions et tous les peuples. Et ces premiers chapitres posent justement plein de questions sur les humains. La question des origines du monde et des humains. La question du projet de Dieu pour l'être humain. Ces premiers chapitres parlent de la relation que nous avons à Dieu. Alors en tant que chrétiens, nous l'avons entendu en introduction, nous entretenons une relation directe avec Dieu. Chez les protestants, de manière encore plus forte, à travers Jésus. Mais alors, quelle est cette relation et qu'implique-t-elle pour nous ? Est-ce qu'elle nous libère ? Nous avons entendu un bout du récit de la création, et la création est un projet divin, en fait, et il ne pouvait être qu'idéal. La réalité humaine, elle est pleine d'ambiguïté, de tension et de violence, comme la suite du livre de la Genève le montrera avec la tentation dans le jardin, le meurtre entre frères, les souffrances, les jalousies et les tensions qui deviennent de plus en plus violentes, jusqu'à mener au récit du déluge. Et il y a dans ce livre de la Genèse aussi deux récits de la création. Au premier chapitre, dont nous avions entendu la fin, et au chapitre 2. Dans ce premier chapitre entendu ce matin, hommes et femmes sont créés en même temps. Dans le deuxième récit de la Genèse, c'est d'abord l'homme, Adam, humain, fait de la terre, qui est créé, puis la femme, Ève. Ce matin, c'est le premier récit qui m'intéresse, et on peut y lire une liste de choses sur ce que c'est d'être un être humain, sur ce que c'est d'être un être humain complet, sur la relation entre hommes et femmes aussi. Ça, ce serait un sujet pour une prédication. Mais revenons tout au début de notre texte, dans le verset 26. Il y a plusieurs éléments qui m'ont mené à me poser des questions. Il y a du singulier et du pluriel. Alors, quels sont les rapports entre ces singuliers et ces pluriels ? Faisons les images, les humains à notre image. Faisons les humains à notre image. Le verset joue sur la confusion entre le singulier et le pluriel. Dieu, qui est un mot au pluriel, est suivi d'un verbe au singulier, et le mot humain est au singulier, mais il est suivi d'un verbe au pluriel. Il faudrait traduire « faisons l'humain à notre image pour qu'il domine » au pluriel « tous les poissons, les oiseaux, etc. » Cette confusion entre le singulier et le pluriel ouvre à toutes les interprétations. Dieu, comme l'humain, est un. Mais il est bien plus que cela. Ils sont un, mais ils sont infinis. Avec des différences entre Dieu et l'humain, nous l'entendrons. À l'image de Dieu, le mot en hébreu, c'est tselem. Il veut dire image, ressemblance, mais aussi ombre. Nous ressemblons à Dieu, mais restons dans son ombre. À sa ressemblance, c'est demut, et c'est dans cette ressemblance, enfin, ça veut dire quelque chose comme dans la ressemblance de, ou comme. Dans les deux cas, nous ne serons jamais Dieu. Souvenons-nous qu'on n'a pas le droit de se faire d'image de Dieu, donc l'humain peut rester comme. Il est un point de comparaison, mais il ne sera jamais l'original. On peut par contre, dans le contexte de l'Ancien Testament, comprendre aussi une fonction royale quand on dit « à l'image de Dieu », comme Pharaon sera représentant de Dieu, ou de la même manière que les rois ont une part qui vient de Dieu et qui fait qu'ils doivent prendre soin de leur peuple. Mais là, j'anticipe, on y viendra un peu plus tard. Donc, en résumé, la réponse à ma première question, pourquoi l'humain est libre ? C'est parce qu'il est créé à l'image de Dieu. L'humain est unique, il est sujet comme Dieu l'est, et il est capable de liberté. C'est un moment axial pour l'homme. L'humain n'est pas une pièce de la création, soumis à un destin, mais un sujet unique, comme Dieu l'est. Il est capable de liberté. Et c'est ce modèle de pensée qui a permis à Kant de définir l'impératif catégorique. Il voyait l'humain comme une fin et non comme un moyen. Agis uniquement d'après la manière qui fait que tu puisses vouloir dire en même temps qu'elle devienne une loi individuelle. universel, pardon. Ça commence bien. Donc, toi, individuellement, agis de manière à ce que ton action devienne une loi universelle. Ça appelle une conversion de tous les jours, étant donné que nous sommes porteurs de cette image de Dieu. L'exemple phare pour nous, chrétiens, est Jésus, qui est venu accomplir la libération de ceux qui s'ouvrent à voir et à entendre Dieu. La consolation pour ceux qui osent pleurer et se laisser consoler par Dieu. Et il ouvre la foi à toutes et tous, peu importe leur origine. Dieu vêtit les croyants des vêtements du salut. Par la grâce, on en a aussi entendu parler ce matin. Alors, pour nous, c'est un travail, c'est une alliance à renouveler chaque jour, à nouveau. Revêtir l'habit de la résurrection, du changement, de Christ. Le texte de la Genèse nous dit aussi que l'humain est créé homme, mâle et femelle, femme. C'est un appel à entrer en relation, à voir par l'altérité le tout autre qu'est mon vis-à-vis, que je ne peux être complet qu'en me confrontant à cette altérité. Je, humain, ne peux être entier qu'en me mettant en relation. Et ça commence par la relation à Dieu. Et reconnaître l'autre et entrer en relation avec lui me donne aussi une responsabilité envers lui. Dans le texte, il y a une relation entre les humains et aussi aux animaux et à la création tout entière. Entrer en relation, reconnaître Dieu et l'altérité, c'est aussi un appel à voir Dieu en chaque humain, aussi vil, aussi repoussant soit-il. On se rappellera les mots de Pilate qui a dit « Voici l'homme de Jésus », alors qu'il portait une couronne d'épines et l'habit pourpre, ce manteau de général romain victorieux, qui lui a été mis par dérision. Et pourtant, il est resté humain, entier. Alors je me demande, quelles sont les personnes que je ne considère pas comme à l'image de Dieu? Celles qui m'ont blessée et que je trouve répugnantes de caractère? Les tueurs, les violeurs, les escrocs? Ou le mendiant qui vit dans la rue et qui ne sent pas bon? Plus loin de moi, ceux que je ne vois pas, comme les malades, les prisonniers, les enfermés à ciel ouvert? Est-ce que je considère, est-ce que nous, collectivement, considérons ces personnes, elles aussi, faites à l'image de Dieu? Si oui, comment se fait-il que nous ne nous sentions pas responsables d'elles? On ne peut pas ne pas penser à Gaza, mais j'ai aussi toujours une pensée pour tous les déplacés du Soudan du Sud. Ces derniers mois, plus de 165 000 personnes ont fui des conflits. Il y a plus de 7,7 millions de personnes confrontées à l'insécurité alimentaire ce mois-ci, enfin le mois dernier. Je pense aussi au Burkina Faso, où il y a des millions de déplacés. Et je pense aussi à l'attaque perpétrée dimanche dernier sur un groupe de croyants réunis dans une église catholique en RDC, à Komanda, dans la province d'Ituri. L'attaque a été revendiquée par un groupe se réclamant de l'État islamique. Alors, nous ne pouvons pas prendre tout le malheur du monde sur nous, et je ne crois pas que ce soit ce qui nous est demandé. Mais nous pouvons nous sentir responsables, en lien avec nos frères et sœurs, co-humains sur Terre. Nous pouvons dénoncer la violence gratuite, la destruction de vie humaine. Nous pouvons clamer la valeur de la vie de ceux qui ont été massacrés, aussi petits ou grands soit leur nombre. comme nous pouvons aussi dénoncer ce qui rend certains humains violents, ce qui les pousse à déshumaniser leur vis-à-vis. Et nous pouvons prier pour la libération de chacune, de chacun, de ces démons, afin qu'il ou elle retrouve ce lien avec celui qui nous a tous créés, où que nous vivions sur la terre et quelle que soit notre religion. Il nous a créés à son image, capables de liberté et de responsabilité envers l'autre, capables aussi de nous engager ici ou plus loin pour les personnes qui ont besoin de soutien. Alors, après ce que je viens de dire, on peut se dire que la question de l'homme et de la femme, de leur relation, de leur place, semble secondaire. Mais je ne crois pas. Je vous ai dit que je n'allais pas prêcher là-dessus, mais quand même, si je peux reconnaître en l'autre celui dont je me sens repoussée, un être fait à l'image de Dieu, je peux aussi reconnaître l'autre, homme ou femme, comme étant de même valeur, de la même source que moi. Et en tant qu'être humain, je crois que nous sommes responsables les uns des autres et que nous sommes responsables ensemble de notre équilibre, de notre survie et de notre organisation. Hommes et femmes ensemble forment l'humain. Nous avons entendu la nécessité de l'altérité pour vivre, pour se rencontrer soi-même, à travers la rencontre avec l'autre, à travers la rencontre avec Dieu. Alors, l'homme et la femme sont deux, sont-ils deux, un ? Ils sont en tout cas faits ensemble, à l'image de Dieu. Il ne faudrait même pas devoir dire que nous sommes différents mais complémentaires, que la différence n'est pas raison de discrimination, quelle qu'elle soit, d'ailleurs la différence, mais de reconnaissance de qualité, de force et de charisme dont nous avons besoin ensemble. Mais je crois qu'il faut encore, quand même, même aujourd'hui, rappeler que nous avons été créés ensemble et complémentaires à l'image de Dieu, que nous valons chacune, chacun, la même chose, et que si ce n'est pas le cas, nous devons le rappeler jour après jour, encore et encore. Dans le contexte de l'ancien Israël, créé à l'image de Dieu évoque aussi la royauté, je l'ai dit avant, comme Pharaon qui tire sa royauté de Dieu, comme les rois qui prennent soin de leur peuple. Et ça me fait passer au deuxième point, la responsabilité. Nous avons déjà entendu que reconnaître l'autre comme un autre nous donne une responsabilité envers lui, à un niveau individuel. La responsabilité découle de la liberté d'être créé à l'image de Dieu, mais elle est aussi contenue dans la bénédiction et l'invitation à dominer le monde. Tout de suite après la mention de la création de l'humain à l'image de Dieu, Dieu les bénit. Il leur dit de proliférer et de dominer le monde. Alors, qu'est-ce que la bénédiction ? En hébreu, créer, bara, et bénir, barak, sont proches. Bénir l'être humain, c'est lui dire de se multiplier, de grandir, de se déployer. C'est un mouvement un petit peu différent de la bénédiction en français qui vient de benedicere, dire du bien de quelqu'un, lui vouloir du bien, même si les deux se ressemblent dans l'intention d'amour et dans l'attention portée à l'autre. Karl Barth, un théologien d'après-guerre, avait dit « Un être est béni lorsqu'un autre être que lui l'autorise à accomplir une action déterminée et l'en rend capable, en lui donnant en même temps la promesse de la réussite. » Il y a quelque chose de cet ordre-là dans la bénédiction de Dieu sur l'être humain. Il lui donne la liberté et la responsabilité pour réussir de mener à bien la mission qui lui est confiée. Il lui promet l'abondance, c'est-à-dire la réussite dans le projet de Dieu. Fondamentalement, l'être humain est capable, mais qu'il suive cette capacité, cette liberté de préserver la création de Dieu ou qu'il se détourne de Dieu, ça lui appartient. La suite de la Bible est truffée de récits qui montrent les limites de l'être humain. Des doutes, des peurs, des jalousies, de la haine et de la violence qui en découlent. Le chemin est difficile. Il faut bien avouer que l'humain n'est qu'à l'image de Dieu. Il n'est pas Dieu. Et quand il oublie que même à la ressemblance de Dieu, il n'est qu'humain, ben ça se gâte pour lui. À se prendre pour Dieu, il va trop loin, il n'écoute plus la loi de Dieu et il s'égare. La création est un projet divin qui ne pouvait être qu'idéal. La réalité humaine est pleine d'ambiguïté, de tension et de violence. Mais revenons à la domination sur le monde. Dominer le monde, c'est le pouvoir que Dieu donne aux êtres humains sur les choses autour d'eux. C'est la responsabilité reçue sur les animaux et sur la terre. La soumission du monde ne veut pas dire que l'homme, la création végétale et animale n'ont pas de valeur et qu'elles sont des objets avec lesquels l'être humain peut jouer à sa guise. Les animaux sont des partenaires de l'humain dans l'ordre de la création. Alors, il y a deux dangers dont il faut se préserver. Ce serait, premièrement, de considérer les animaux comme des objets ou, deuxièmement, de les idolâtrer. Dieu appelle à une domination sans violence, à préserver un équilibre. L'être humain, dans le texte, n'était pas une menace pour les animaux, dans ses tout premiers temps, étant donné qu'il était végétarien. Êtres humains et animaux étaient tous herbivores. Alors on peut se demander ce que l'être humain a compris de cette responsabilité-là quand on voit la santé climatique de notre Terre, des pans entiers de montagnes qui s'effondrent dans un pays sûr et civilisé, bien géré, comme la Suisse, je pousse volontairement le trait, mais aussi les tremblements de terre ailleurs dans le monde, les tsunamis, les îles du Pacifique qui sont en danger depuis bien longtemps déjà. Ou quand on voit que des animaux sont menacés d'extinction depuis des décennies et que nous n'arrivons pas vraiment à inverser la tendance, que des éléphants sont encore tués pour leur défense, que des chiens et des chats sont abandonnés tous les ans au moment des grands départs en vacances, ou que des chiens et des chats ou d'autres animaux domestiques sont traités comme des poupées, comme autre chose que ce qu'ils sont, comme des idoles. Nous sommes en droit de nous questionner face aux comportements que nous observons chez les autres et chez nous-mêmes. Nous sommes libres de suivre la volonté de Dieu et de le reconnaître en chacune et en chacun de nous, de nous rencontrer avec amour et bienveillance. Alors non, je ne suis pas naïve, je sais qu'il y a des personnes qui veulent et qui font le mal. Et je ne dis pas qu'il faut tout accepter, et en particulier pas les comportements destructeurs. Mais répondre au mal par le mal, aux blessures reçues par des blessures infligées en retour, ça ne mène ni à la liberté intérieure, ni à la libération collective. Répondre au mal par le mal ne mène qu'au massacre et à la destruction de l'humanité. Et nous luttons contre ce mouvement depuis la nuit des temps. Nous luttons contre nos limites, nos faiblesses et nos défaillances. Mais nous avons la liberté de lutter et de nous mettre à l'écoute du plan de Dieu pour nous et pour la création tout entière. Nous avons la liberté de nous mettre en relation avec Dieu et avec les autres. Nous sommes libres de dominer le monde, c'est-à-dire d'en prendre soin avec bienveillance et attention, à veiller à ne pas détruire plus encore la création, ni à exploiter les ressources de la terre sans réfléchir, ou à élever en masse des animaux pour les manger, mais en jeter une grande partie par manque d'attention justement à ce qu'on faisait. L'attention à l'autre, à tous les êtres humains et à la création est présente depuis le premier mot de la Bible. Et Jésus est venu nous la rappeler et nous rappeler la loi de Dieu. En préparant cette prédication, j'ai pensé à l'épître aux Colossiens, à Christ né premier de toute créature. Dans Colossiens 1, il est dit « Il est à l'image du Dieu invisible, premier-né de toute créature, car en lui tout a été créé, dans les cieux et sur la terre, les êtres visibles comme les invisibles, trône et souveraineté, autorité et pouvoir, tout est créé par lui et pour lui. Christ nous précède en tout, il nous ouvre le chemin, c'est à nous de nous mettre en route, de faire alliance avec Dieu qui nous a donné la vie en nous et autour de nous. Jésus est venu non pas abroger la loi, mais l'accomplir, la rendre pleine, rappeler pourquoi elle est là et nous inviter à marcher à sa suite. En Colossiens 3, nous lisons « Plus de mensonges entre nous, car vous vous êtes dépouillés du vieil homme avec ses pratiques et vous avez revêtu l'homme nouveau, celui qui, pour accéder à la connaissance, ne cesse d'être renouvelé à l'image de son Créateur. Il n'y a plus ni grec et juif, circoncis et incirconcis, barbare, scythe, esclave, homme libre, mais Christ. Il est tout et en tous. » Jésus nous appelle à nous rappeler que nous sommes faits à l'image de Dieu, que nous renaissons en le suivant et que c'est un travail de chaque jour. Nous ne serons jamais parfaits, ni tout-puissants. Il nous dit aussi que nous sommes créés à l'image de Dieu, oui, mais que l'autre aussi est créé à l'image de Dieu, et que nous ne devons pas nous prendre pour Dieu, mais nous soumettre librement à sa volonté, à sa loi, à son amour. Amen.
Merci Agnès, et avant de passer à la Sainte Cène et à communier, donc à accomplir finalement un peu cet acte de dire que nous faisons tous partie ensemble d'une communauté qui a été sauvée par un Rédempteur, par un Sauveur, on veut proclamer un peu de ça en chantant Rédempteur du monde. Non pas rédempteur de la Suisse ou de ma famille, mais pas de celle d'à côté, mais rédempteur du monde. Et remercie notre Père d'avoir donné Jésus-Christ son Fils et d'envoyer la lumière de son Saint-Esprit. Vous pouvez rester assis, vous lever, comme vous le désirez.
Merci.
Merci notre Père d'avoir donné Jésus ton Fils et d'envoyer ta lumière par le Saint-Esprit.
Pour introduire la scène, je vais lire quelques paroles d'un chant du groupe Écriture. Merveilleux Sauveur, ton sacrifice nous commémorons. Reçois tout l'honneur, à table ensemble nous te proclamons. Plein d'espérance, oui, nous t'attendons. Prenez, mangez, voici le pain de vie, le corps de Christ brisé pour vous. Quel grand pardon pour nous, Jésus acquis, en détournant le Saint-Courroux. Prenez, buvez la coupe de l'Alliance, le sang de Christ versé pour vous. Ce flot béni coula en abondance pour purifier tous ses élus. Et je lirai encore dans Luc 22, versets 19-20. Ensuite, il prit du pain, et après avoir rendu grâce, il le rompit et le leur donna en disant : Ceci est mon corps qui est donné pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. Il prit de même la coupe après le souper, et la leur donna en disant : Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang qui est répandue pour vous.
Prions. Tu es béni, Dieu de l'univers, pour toutes tes bontés envers nous. Merci pour la promesse d'une vie libérée de tout esclavage. Merci pour cette offrande que tu nous permets de faire. Merci pour ton Église qui te loue dans toutes les langues de la terre. Merci pour les croyants qui avant nous ont cru, lutté, espéré. Merci pour ce pain et ce vin, fruit de la terre et du travail des humains, dont tu fais pour nous la nourriture qui annonce le monde à venir. Dieu notre Père, tu es la source de la vie, tu es la source de l'amour. C'est toi qui nous libères. Voici le pain et le vin. Que ton esprit, souffle vivant, nous donne maintenant communion au corps et au sang de ton Fils Jésus-Christ. Amen.
Nous allons maintenant avoir un temps d'offrande libre. On vous rappelle que c'est vraiment à votre bon cœur. Donc, soit vous pouvez mettre dans les sachets qui vont passer, soit vous pouvez mettre dans la petite boîte qui est toute derrière, ou même le faire par Twint. Et on vous rappelle, ou pas avec le QR code, et on vous rappelle que les offrandes de tout cet été seront partagées entre l'Église protestante et l'Église de Meyrin. Seigneur, nous voulons encore te remettre cette offrande qui vient d'être donnée pour ton service, que tu diriges ceux qui vont l'utiliser, qui vont la distribuer, pour que tout soit fait pour ta gloire, Seigneur. Amen. Je suis partie parce que comme c'est l'été, effectivement, il n'y a pas d'annonce aujourd'hui. Donc, rien de spécial, sinon que le culte de la semaine prochaine est de nouveau au CEPOM et que c'est Denise Félix qui donnera le message. Voilà.
Et je vous invite à vous lever pour recevoir la bénédiction. Nous avons entendu la parole de Dieu. Allons, libérés, à la rencontre de l'autre, de notre prochain. Prenons soin de nos relations et de tout ce qui nous entoure. Le Seigneur vous bénit et vous garde. Le Seigneur fait luire sa face sur vous et vous accorde sa grâce. Le Seigneur tourne sa face vers vous et vous donne sa paix. Amen.